Le débat du jour. Romain Ozoui.
Bonsoir à tous. Il y a quelques dizaines d'années, ça ressemblait à de la science-fiction, mais aujourd'hui, la machine peut ouvrir une porte, détecter des tumeurs cancéreuses, on appelle cela l'intelligence artificielle. Alors c'est un concept qui n'est pas nouveau, mais qui ne cesse de se développer et qui ne cesse également de poser un certain nombre de questions. Par exemple, la reconnaissance faciale qui permet notamment de déverrouiller votre smartphone, mais qui peut aussi servir à la surveillance de masse. L'ONU s'en inquiète, elle n'est pas la seule. Elle vient de demander un moratoire sur certains systèmes d'intelligence artificielle. Alors, quel cadre aujourd'hui pour l'intelligence artificielle? Nous allons poser la question à mesure que les technologies évoluent. Où est-ce qu'il faut placer les garde-fous? Quel point cela soulève-t-il? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à nos questions, nos trois invités ce soir, Serge Tisseron, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies et du Conseil national du numérique. Je vais citer l'un de vos ouvrages, « Le jour où mon robot m'aimera vers l'empathie artificielle ». Face à vous, Stéphane Mala, bonsoir.
Bonsoir.
Mathématicien, titulaire de la chaire de sciences de données, professeur au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Et Jean-Philippe Débiol, qui est en ligne avec nous ce soir, bonsoir.
Bonsoir.
Vice-président de la division d'IBM, dédié à l'intelligence artificielle. Merci à vous trois. D'abord, alors j'ai donné des exemples, mais est-ce qu'on peut en dire plus sur aujourd'hui ce qu'est l'intelligence artificielle? Stéphane Mala, comment est-ce qu'on pourrait définir ces technologies et à quoi cela renvoie-t-il?
L'intelligence artificielle, initialement, c'est-à-dire dans les années 50, ça a été défini comme essayer de reproduire avec des ordinateurs des formes de comportement, de raisonnement, de l'intelligence humaine. Mais la révélation et la révolution, en quelque sorte, auxquelles on assiste depuis les 10 dernières années, ça vient de la capacité à commencer à apprendre à partir de données. Donc, par exemple, apprendre à reconnaître des visages, vous en parliez, des animaux dans des images, le langage, apprendre à écrire un texte, apprendre à jouer aux échecs. Et cet apprentissage, il se fait à partir de données et avec des algorithmes paramétrés qui vont apprendre, et je pourrais expliquer le fonctionnement de ce genre d'algorithme.
Jean-Philippe Débiol, vous qui êtes vice-président de la division d'IBM, justement, dédiée spécifiquement à l'intelligence artificielle, vous pouvez nous donner des exemples au sein d'IBM d'utilisation d'intelligence artificielle?
Bien sûr. Alors, je crois que le premier point, d'abord, pour rebondir sur ce que vient de dire mon collègue, effectivement, la grande révolution de l'intelligence artificielle, c'est qu'on est passé d'un monde, finalement, un monde de règles très déterministe à un monde d'apprentissage, dans lequel, finalement, pour la première fois depuis à peu près 30 ou 40 ans, nous, collectivement, humains, hommes et femmes, nous sommes quelque part confrontés à des machines qui vont apprendre, qui vont progresser, qui vont s'améliorer au travers l'utilisation que l'on a avec elles. Et c'est la première fois que nous sommes face à ce paradigme. Alors, pour répondre à votre question sur les cas d'utilisation, aujourd'hui, on voit sur le marché trois grandes familles d'utilisation que sont finalement tous les changements de l'expérience que nous avons dans l'interaction que nous avons avec, par exemple, nos smartphones, l'interaction que nous avons avec les solutions qui nous entourent sur les PC, bref, toutes les interactions entre l'humain et les machines au sens général. C'est pour ça qu'on parle beaucoup, effectivement, de l'impact du langage naturel sur cette capacité que l'on a à parler, communiquer avec une machine qui, cette fois, nous comprend et comprend ce que nous voulons. Premier point. Le deuxième point qui est très important pour nous, c'est que cet impact de l'intelligence artificielle se retrouve aussi dans le monde du travail, au sens où les médecins, les avocats, les journalistes, les consultants vont être impactés parce qu'ils vont devoir travailler avec des systèmes informatiques qui s'appellent donc les systèmes d'intelligence dite artificielle. Et ces systèmes-là vont les accompagner, les assister dans leurs tâches quotidiennes, par exemple dans la recherche d'informations, par exemple dans le fait de trouver une décision ou d'avoir accès à une décision qu'une machine peut proposer, recommander à un avocat, à un médecin, mais aussi à quelqu'un qui travaille sur une chaîne de production. Et ça, c'est les deuxièmes familles de cas d'utilisation. Et les troisièmes familles d'utilisation, c'est que c'est ce qu'on voit maintenant qui monte en puissance, et c'est pour ça que l'IA va devenir extrêmement pervasive, c'est que l'IA est en train de s'immiscer au sein de tous les processus métiers qui sont autour de nous, et c'est la grande nouveauté depuis maintenant 12 ou 24 mois, d'un sujet qui était, je dirais, très en surface, au travers les chatbots, tout ce qu'on a vu émerger depuis à peu près maintenant 3-4 ans. On est maintenant face à un sujet qui devient extrêmement pervasif au sein des processus métiers.
Alors, ce qui ressort des trois points que vous venez de soulever, Jean-Philippe Debiol, c'est que l'humain n'est jamais très loin. Serge Tisseron, vous qui êtes psychiatre, docteur en psychologie, qui vous intéressez à ces questions d'intelligence artificielle, l'intelligence humaine n'est jamais très loin.
Non, elle n'est jamais très loin. Et le problème, c'est que l'expression même d'intelligence artificielle peut nous laisser penser qu'elle est très près. En fait, non, l'intelligence artificielle, ça a très bien été dit par Stéphane Malas, ça n'a rien à voir avec l'intelligence humaine, elle obéit à d'autres règles, elle fonctionne autrement.
Mais elle est pensée par des humains, pour des humains.
Mais elle est pensée par des humains qui parlent d'intelligence artificielle, justement, d'ailleurs le mot est beaucoup critiqué aujourd'hui, qui parlent d'empathie artificielle, comme si la machine avait des émotions, qui parlent de réseaux de neurones, comme si des réseaux de neurones artificiels pouvaient être comparables à des réseaux de neurones humains. Et tout ça, il faut comprendre que c'est dû au fait qu'à l'origine, l'intelligence artificielle n'a pas une définition, mais qu'elle en a deux. Alors on en a une qui ont très bien évoqué Stéphane Malas et Jean-Philippe Debiol, c'est-à-dire celle de la conférence de Dartmouth dans les années 50. Voilà, l'intelligence artificielle, c'est cette intelligence fabriquée par des machines de plus en plus sophistiquées qui va être capable de réaliser un certain nombre de performances.
C'est là où le concept est né.
Voilà, c'est le concept né. Mais vous avez aussi une autre origine, qui est l'origine d'Alan Turing, qui lui pense l'intelligence artificielle comme un moyen de simuler l'humain. Vous connaissez, tout le monde a entendu parler de l'expérience d'Alan Turing, c'est-à-dire qu'il dit, ben voilà, on a une intelligence artificielle quand un interlocuteur humain interagit sans savoir s'il interagit avec un humain ou avec une machine, et s'il pense qu'il interagit avec un humain quand il interagit avec une machine, c'est que la machine est capable de simuler l'humain. Et vous avez toute cette ambiguïté, et puisqu'on veut des exemples concrets, je vous donne un très simple. Quand vous téléphonez à votre banque et que quelqu'un vous répond, voilà, répond à vos questions, à vos préoccupations, bon, mais vous êtes très content, éventuellement, voilà, vous dites merci beaucoup, je vous remercie et tout. Si ça se trouve, c'est une machine qui vous répond. Et de plus en plus, ça sera une intelligence artificielle. C'est-à-dire que là, on n'est pas seulement dans la capacité d'une machine à être compétente comme un humain, on est dans la question d'une machine qui simule la présence d'un être humain. Et à mon avis, c'est la grande difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui. C'est cette capacité de plus en plus de machines, notamment avec le développement de la voix, la capacité des machines de parler, l'ambiguïté grandissante dans laquelle on rentre, où on risque de ne plus très bien savoir parfois si on a affaire à des humains ou à des machines, ce qui pose quand même un vrai problème.
Stéphane Malas, on est à un moment charnière. Aujourd'hui, on est en train de passer un cap. Alors on a dit, ça date pas d'hier, l'intelligence artificielle des années 50, l'a dit Serge Tisseron. Or là, il y a l'ONU qui demande un moratoire sur certains systèmes à risque. Il y a la Commission européenne au printemps qui a publié un texte en bannissant certains systèmes. Pourquoi on en arrive à ce moment-là et quels sont ces systèmes qui sont dits à risque? Est-ce que c'est ce que pointe Serge Tisseron? On évoque le deep learning, peut-être que vous pouvez nous en parler.
Oui. On arrive à un moment effectivement où ces algorithmes commencent à devenir extraordinairement puissants. À cause des capacités calcul et des capacités de stockage de données. Je pense que c'est important peut-être pour justement ne pas avoir peur non plus de ce genre de technologie, d'en comprendre un peu la base et comment elle fonctionne, parce que c'est pas un mystère. On sait qu'un ordinateur va pouvoir implémenter ce qu'on appelle des algorithmes, c'est-à-dire des séquences d'instructions. Quelle est la spécificité de ces algorithmes d'apprentissage? C'est que, à l'intérieur de ces algorithmes, il y a des paramètres. Et comment on fixe ces paramètres? Eh bien, on donne des exemples, et ça va être la phase d'apprentissage. Et par exemple, dans un problème où il s'agit, à partir d'une image, de reconnaître un animal, eh bien, on va dire, comme d'une certaine manière à un enfant, voilà, cette image, c'est une image de chien, ça, c'est une image de cheval. Et l'algorithme va se configurer, c'est-à-dire définir les paramètres, de façon à être capable de répéter, c'est-à-dire répéter le fait que c'est une image de chien, de chat. Ce qui est intéressant, évidemment, ce n'est pas de répéter, mais c'est de généraliser, c'est-à-dire de donner une nouvelle image et d'être capable, tout d'un coup, de reconnaître l'animal. Alors, il n'y a pas de mystère derrière ça. D'où vient ce type de généralisation? C'est un peu le même genre de phénomène lorsque vous allez, par exemple, mesurer la taille de votre enfant. Vous allez faire ça, disons, une fois par an. Et puis, vous pouvez vous demander, ah oui, mais à 13 ans, il faisait 1 mètre. À 14 ans, il faisait 1 mètre 40. Ah, mais tiens, à 13 ans et demi, il faisait combien? Eh ben, ça va être quelque part entre les deux, c'est-à-dire 1 mètre 20. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on interpole à partir des exemples. On trace la courbe qui va passer par les exemples. C'est exactement ce qu'on fait dans ce genre de situation, c'est-à-dire que la machine apprend à interpoler. Ce qui est très impressionnant et la très grosse surprise, c'est qu'on a affaire à des problèmes beaucoup plus difficiles, c'est-à-dire c'est pas trouver une variable à hauteur, mais on a une image avec 1 million de variables, donc énormément. Et donc pour apprendre à partir de cette complexité, on pensait qu'il faudrait de très nombreuses années. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que des architectures de calcul qui existaient depuis assez longtemps, bien qu'elles aient été améliorées, avec l'explosion des puissances de calcul des ordinateurs et des mémoires, tout d'un coup avaient la capacité, effectivement, de résoudre ces problèmes complexes. Et en ce moment, ça s'accélère très vite, à tel point qu'on pensait que l'intelligence artificielle était confinée à des tâches très spécialisées et qu'il faudrait attendre longtemps avant qu'il y ait une capacité d'aborder des tâches assez générales. Et on se rend compte qu'en entraînant des systèmes, le dernier avait plus de 170 milliards de paramètres, eh bien on voit émerger la capacité d'apprendre de façon très générale, disons assez générale.
Vous avez des exemples
humains. Oui, à partir, donc il y a un système qui s'appelle GPT-3 qui a été développé par un laboratoire de recherche aux États-Unis, donc qui a ces 170 milliards de paramètres, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup plus que ce qui était jusqu'à présent, qui a appris de façon en apparence assez simple, c'est-à-dire il prend des textes et il prédit le mot d'après. Il apprend à prédire le mot suivant. Et à partir de cet apprentissage, mais qui a été fait sur une très grosse partie des données de l'Internet, on a configuré le système de manière à pouvoir le spécialiser avec une simple requête. C'est-à-dire, on lui dit, par exemple, « Traduisez-moi ce texte du japonais au hollandais ». Il n'a pas été spécifiquement entraîné pour ça. Il a été entraîné de façon beaucoup plus large. Et il est capable de le faire, il est capable, avec évidemment des limites, mais avec de bonnes qualités, capable d'écrire des textes et capable de faire de la programmation, des multiplications. Alors ça n'a rien de magique, encore une fois.
L'idée, c'est de mimer aujourd'hui le cerveau humain,
c'est
ça. Je citais le deep learning, parce que c'est un terme
Ce sont les techniques qui sont effectivement utilisées.
C'est ce qui interroge, on va en parler évidemment avec
Ce sont les techniques qui sont utilisées. Alors, le lien avec l'intelligence humaine est, comme ça a été dit, très compliqué à établir parce que ce ne sont pas du tout les mêmes réseaux. Ceci étant, il y a beaucoup d'études en neurophysiologie qui montrent qu'il y a des similarités. C'est pas très proche, mais il y a beaucoup de similarités. Et si on regarde le problème d'un point de vue mathématique, on peut effectivement se dire que le type de solution qui va être trouvé par ces algorithmes et le type de solution qui est implémenté dans le cerveau pour aborder son problème, peut-être ne sont pas si différents que ça.
Serge Tisseron, est-ce que c'est là qu'il faut poser des garde-fous? On a dit au début, l'intelligence artificielle, jusqu'à maintenant, c'était voilà reconnaître une image, on identifie un chien, on identifie un chat. Maintenant, il y a des milliers de paramètres qui peuvent entrer que la machine, l'intelligence artificielle peut ingérer. Est-ce que c'est à partir de là que se posent des questions d'ordre éthique?
Alors, il faut bien comprendre que les algorithmes de l'IA ne sont pas tout dans les résultats que donne l'IA. Les bases de données jouent un très grand rôle. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est la guerre des données. Hein. On appelle l'or le nouveau pétrole du XXIe siècle, l'or des données. C'est pour ça que nos données sont prélevées partout où nous allons, sur Internet. Les joueurs de jeux vidéo ont de plus en plus de données prélevées, et je parle même pas des utilisateurs des réseaux sociaux. Et on s'aperçoit très vite que, en fait, pour recueillir ces données, les fournisseurs d'accès utilisent des algorithmes et que ces algorithmes peuvent menacer la vie privée. Donc déjà, il y a des inquiétudes sur la vie privée. Vous savez, on a beaucoup parlé de la façon dont les algorithmes présents sur les réseaux sociaux peuvent enfermer les gens dans des bulles, les faire tourner en rond, les amener à rencontrer uniquement les gens qui ont le même avis qu'eux. Donc il faut comprendre que c'est pas l'intelligence artificielle qu'il faut craindre. Moi, je suis
médecin. Mais l'intelligence artificielle, c'est un degré au-dessus. Je vais citer le récent rapport de l'ONU que j'évoquais, les dysfonctionnements de l'intelligence artificielle ont empêché des gens de toucher des aides sociales, de trouver un emploi ou encore ont mené à des arrestations d'innocents sur la base de systèmes de reconnaissance faciale mal entraînés.
En plus. Mais
donc c'est un degré encore au-dessus.
Voilà, mais ce n'est pas l'intelligence artificielle qu'il faut craindre. Je veux dire, en médecine, c'est formidable parce qu'on arrive à anticiper de ce qu'elle permettra bientôt de faire. Voilà, et je ne parle même pas pas seulement de l'allongement de la vie, me guérir beaucoup de maladies. Non, c'est son utilisation qu'il faut craindre. Et je dirais que l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, arrive à un mauvais moment. Elle arrive à un moment où il y a beaucoup d'inquiétudes internationales, enfin beaucoup d'inquiétudes en Occident, dans les démocraties, sur le terrorisme, sur les menées de l'étranger, qui sont réelles d'ailleurs. Et donc, du coup, la tentation, c'est de surveiller de plus en plus de gens. Donc, si vous voulez, l'intelligence artificielle, d'abord, elle peut être biaisée par les données. Donnons un exemple, il est classique, hein, cette femme noire qui a eu la surprise de se voir catégorisée comme singe parce que l'algorithme n'avait pas été entraîné sur suffisamment de visages.
Donc il peut y avoir la technique, c'est pas uniquement l'utilisation, mais c'est l'utilisation qu'on en fait.
Voilà, mais là c'était pas l'algorithme. L'algorithme était probablement bon, j'imagine. Simplement, il avait été entraîné sur des visages de blancs et sur des visages d'animaux et pas sur des visages de personnes qui avaient la peau noire. C'est pour ça que les Chinois récupèrent beaucoup de visages en Afrique parce que ça leur permet d'augmenter la fiabilité de leurs algorithmes. Donc, des résultats donnés par leurs algorithmes. Voilà. Donc, si vous voulez, la question, c'est, et l'éthique dans tout ça, quoi. C'est pour ça que l'ONU.
C'est la question
dit,
que je vous pose.
Il faut faire attention. Voilà, tout à fait. Et vous avez.
Et comment faire attention?
On a parlé de la vie privée, mais il y a les menaces sur les métiers aussi, quand même. Il faudra bien prévoir la reconversion professionnelle d'un grand nombre de gens dont les métiers vont être menacés par l'intelligence artificielle. Puis vous avez aussi la question des inégalités, parce que vous avez des gens qui arrivent à, je dirais pas maîtriser, mais qui arrivent à s'y retrouver un petit peu dans la logique des algorithmes. Et puis, il y a des gens qui sont complètement menés par le bout du nez, notamment pour rester toujours plus longtemps sur les réseaux sociaux, dans les jeux vidéo, apporter toujours plus de données personnelles, toujours plus d'argent. Il y a une nouvelle science qui est née grâce à l'intelligence artificielle qui s'appelle la captologie. C'est la capacité de capturer l'attention des utilisateurs et de les faire rester toujours plus longtemps là où on veut les faire rester et leur soutirer toujours plus de données, toujours plus d'argent. Donc, c'est ça qui est très inquiétant. Donc, l'intelligence artificielle, c'est comme toutes les découvertes fantastiques. Elle a un côté merveilleux, puis elle a un côté terrifiant. Quoi. Voilà, c'est pour ça que l'ONU réagit, c'est parce qu'il faut poser des bases éthiques qui, aujourd'hui, ne sont pas clairement posées.
Et on va parler de ce cadre. Jean-Philippe Débiol, vous souhaitez réagir. Alors, j'ai lu que vous êtes exprimé à plusieurs reprises dans la presse sur le sujet. Et vous, qui êtes, je le rappelle, vice-président de la division d'IBM dédiée à l'intelligence artificielle, vous recommandez aux entreprises de désigner justement un responsable de l'éthique.
Bien sûr. Et je crois que je rejoins mes collègues, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Et surtout, je crois que la dernière chose à faire, c'est que nous nous déresponsabilisions du sujet. L'IA sera ce qu'on en fera. C'est comme toute technologie, elle porte en elle-même des gains extraordinaires. On a évoqué la médecine, on a évoqué d'autres sujets. Mais si on l'utilise mal, effectivement, elle porte des aspects qui sont négatifs. Mais je vais tordre le cou à trois idées reçues de manière assez rapide. La première chose, c'est que quand on parle d'IA, en général, effectivement, très vite, on nous dit la data, et on l'a évoqué. Et oui, la data est importante, il n'y a pas de malentendu.
La data, ce sont les données.
La data, ce sont les données, et c'est ce qu'évoquait mon collègue à juste raison. On dit souvent que les données, c'est le nouvel or noir du siècle dans lequel nous vivons. Mais entre nous, ce n'est pas que de la data, parce que l'intelligence artificielle, c'est l'apprentissage. Et donc, l'apprentissage, il est fait par qui? Il est fait par des hommes et des femmes qui vont passer du temps à apprendre à un système à faire quelque chose. Donc, c'est data et apprentissage. La deuxième idée reçue auquel on va tordre le cou, c'est que très vite, dans un débat sur l'IA, très vite, on va arriver à une notion d'algorithmie, de modèle mathématique. Et donc, vous évoquiez le deep learning à juste raison. Mais encore une fois, oui, il y a dans l'IA des modèles. Mais l'IA, c'est avant tout des sciences cognitives. Ça fait référence à quoi? Ça fait référence au langage, on l'a évoqué, à la voix, à la reconnaissance visuelle, au raisonnement, à la gestion du savoir, à l'empathie. Donc on est finalement dans l'IA sur des matières qui sont également du ressort des sciences cognitives et pas que des mathématiques. Et le troisième sujet auquel je veux tordre le cou, et là c'est IBM qui parle, très vite on parle de technologie. Alors oui, il y a de la technologie dans l'IA, bien entendu. Mais c'est avant tout l'humain. L'humain est au centre de tout. Et c'est pour ça que je trouve que le débat qu'on a est très intéressant, parce qu'on voit bien que finalement, l'IA sera ce que nous en ferons. C'est-à-dire qu'elle va répondre à des codes d'apprentissage que nous portons, elle va répondre à des codes d'éthique que nous avons ou que nous n'avons pas. Et finalement, c'est pour ça qu'il faut que nous restions vigilants sur ce sujet. Ensuite, il y a un deuxième point qui a été évoqué, sur lequel je vais mettre sur la table ce que j'appelle moi le paradoxe de l'IA. Et ce paradoxe, c'est que nous, en tant qu'êtres humains, nous allons être constamment maintenant, un peu de manière un peu schizophrénique, dans une notion d'extrême confort et d'extrême inconfort. Pourquoi ? Parce que l'IA va être puissante, elle va quelque part répondre à nos goûts, elle va répondre à ce dont nous avons envie, elle va répondre à ce que nous aimons faire. Et parce qu'elle va nous connaître de plus en plus, au travers de son utilisation dans les mobiles, dans les PC, à la télévision, au boulot, elle va répondre quelque part, elle va nous mettre dans un contexte, dans un cocon, où elle va dire et va nous prédire des choses que l'on aime faire. Mais paradoxalement, en même temps, elle va des fois nous dire des choses auxquelles nous ne pensions pas. Et mettez-vous un petit peu à la place de... Des fois, vous n'aimez pas quand quelqu'un vous dit quelque chose que vous étiez censé savoir et que vous n'aimez pas qu'il vous le dise. Mais là, ça ne sera pas un ami, ça ne sera pas un collègue de travail, ça sera une machine qui va vous le dire.
On peut extrapoler, en gros, par rapport à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui, où on a des suggestions qui correspondent à ce qui peut nous intéresser. C'est d'une manière un peu plus importante que ceci. C'est un exemple, je veux dire.
Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que ce que vous vivez sur les réseaux sociaux, au travers notamment les suggestions que l'on vous fait, vous avez aimé tel livre, vous allez adorer celui-là, vous avez vu telle série sur Netflix, vous allez adorer celle-là, c'est toute cette corrélation d'un environnement, et parce que l'IA va de plus en plus vous connaître, à la fois par rapport à vos data, mais à la fois par rapport à ce que vous faites, elle va être de plus en plus performante, d'où la notion de confort, mais en même temps, vous allez être mis dans une notion d'inconfort. Et j'en viens à une première conclusion sur laquelle on peut aussi débattre avec mes collègues, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier et jamais perdre de vue qu'il faut qu'on conserve notre libre arbitre et notre instinct. Parce que c'est ça qui, in fine, nous différenciera de l'utilisation des machines. Mais qu'on le veuille ou non, on est face à une nouvelle collaboration qu'on n'a encore jamais connue entre les humains et les machines apprenantes.
Et c'est complexe parce que ça déshumanise aussi. On entend ce que dit Jean-Philippe Desbiol. L'IA sera ce qu'on en fera. Il l'a répété à plusieurs reprises. Je me retourne vers vous, Serge Tisseron, parce que vous travaillez sur ces questions d'éthique. Est-ce qu'on peut imposer un même cadre à l'Europe qu'aux États-Unis et la Chine? L'Europe, c'est 7% de part de marché sur l'intelligence artificielle. Les États-Unis et la Chine, c'est 80%. Et surtout, c'est pas la même mentalité. Comment on fait dans ces cas-là?
Alors, écoutez, d'abord, Jean-Philippe Desbiol a une belle formule. Extrême confort, extrême inconfort. Le problème, c'est que, à partir du moment où le modèle économique, quand même, de l'IA, c'est que des gens achètent des machines susceptibles de leur apporter un certain nombre de services guidés par l'IA, il faut pas que les machines créent un trop grand inconfort. Et donc, on en arrive à des machines que j'appelle pâte à tartiner, voilà, c'est-à-dire que ce sont des machines qui vous parlent et qui vous caressent toujours dans le sens du poil, qui sont toujours d'accord avec vous, etc. Il y en a quelques-unes. Il y a des robots pour personnes âgées, déjà, qui sont incroyablement caressants, si vous voulez, au sens psychologique du terme. Et justement, l'inconfort est si grand aujourd'hui, quand vous vous rendez compte, le conflit entre la Chine et les États-Unis, la menace écologique, toutes les crises qui s'amoncellent, le dérèglement climatique. Les gens sont dans un tel inconfort qu'ils ne vont certainement pas accepter des machines qui les mène dans un extrême inconfort, comme dit Jean-Philippe Desbiol. Donc oui, ça, si on vivait dans une société où chacun a la possibilité d'assumer ses angoisses, où chacun a la possibilité d'assumer ses incertitudes, mais pour la plupart des gens, c'est pas vivable. Donc c'est là que les machines risquent d'occuper cette case. Ça sera des machines à nous rassurer, et c'est là que justement il y a des questions éthiques graves, parce que du coup, ce risque d'être des machines qui démobilisent des enjeux collectif. Et si vous voulez, nous, on dit toujours à l'Institut pour l'étude des relations hommes-robots que j'ai fondé, on dit toujours que c'est ce qui est une des choses les plus importantes, c'est que l'intelligence artificielle ne remplace pas des humains, mais qu'elle aide des humains à faire mieux ce qu'ils font aujourd'hui, ensemble ou séparément, mais qu'elle ne remplace pas. Or, si vous voulez, la grande tentation des fabricants, poussée d'ailleurs par le modèle économique, c'est d'avoir des machines moins coûteuses que des humains à terme pour fabriquer non seulement des voitures, mais aussi pour fabriquer des microprocesseurs, mais aussi pour assembler tous les objets de la vie quotidienne. C'est pas pour rien qu'on a autant parler qu'aujourd'hui de revenus minimum garantis. C'est parce qu'il y a des gens qui se disent, mais dans 20 ans, qu'allons-nous faire si les machines font tellement bien, tellement de choses ?
Stéphane Malla, comment est-ce qu'on peut encadrer cela ? Parce qu'il y a le risque aussi que l'humain soit, entre guillemets, enfumé par tout cela, parce que ça reste abstrait. Alors grâce à vous, ça l'est beaucoup moins. Mais pour beaucoup de gens, ça les dépasse.
Oui, dans cette formule, l'IA, on en fera ce que l'on veut. La question, c'est aussi qui est on. Parce que il faut quand même réaliser qu'on est dans une situation un peu particulière où ces technologies sont essentiellement contrôlées par des très gros groupes, en l'occurrence aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il faut des telles capacités de calcul actuellement que dans la recherche publique, y compris et actuellement aux États-Unis, il y a une réaction là-bas. On a beaucoup de mal à travailler sur ces problèmes parce que il faut des infrastructures absolument énormes. Donc, on est dans une situation où beaucoup des éléments sont développés par les grandes entreprises, notamment ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Microsoft, Amazon. IBM est certainement aussi extraordinairement compétente dans le domaine. Et les États actuellement ont du mal à contrôler dans la mesure où ils ne maîtrisent pas à l'intérieur de leur propre laboratoire, ces technologies.
L'économie donc, au-dessus du politique et au-dessus
et donc
de l'intérêt
ça, ça
général.
Va être une des vraies questions et qui apparaît, j'imagine, dans les débats de l'ONU, c'est de pouvoir remettre le politique en contrôle, effectivement, avec les décisions qui vont être des décisions éthiques, qui vont être des décisions de régulation. De ce point de vue-là, l'Europe a plutôt montré le chemin.
Avec le texte de la Commission européenne qui a
absolument.
Été présenté au printemps.
Il faut réaliser que, par exemple, la Chine a décidé d'investir 100 milliards sur ces technologies parce qu'il faut construire maintenant de très grosses infrastructures pour être capable de développer des algorithmes qui sont suffisamment ou de plus en plus puissants. Donc, oui, ce sera ce qu'on en fera, mais il est important que dans le « on inclut effectivement les citoyens et donc d'une certaine manière que les États puissent reprendre une forme de contrôle sur ce type de technologie en ayant une compétence. Et ça, c'est un débat politique, je pense, qui est primordial pour qu'ensuite on puisse bien aborder les questions de comment l'adapter à l'humain et à nos usages.
Oui, allez-y, Jean-Philippe Deviol.
Peut-être pour rebondir sur ce qu'on vient de se dire à l'instant, qui est vraiment intéressant, je pense que, vous savez, on parle beaucoup d'IA en tant qu'intelligence artificielle, on devrait parler d'IA en tant qu'intelligence augmentée, c'est-à-dire effectivement c'est quelque chose qui est censé nous augmenter, nous aider, nous assister, ça c'est un premier point. Le deuxième point, pour rebondir sur ce qu'on vient d'être dit sur l'éthique, elle est fondamentale, la confiance est fondamentale dans le déploiement de l'IA, et parce que s'il n'y a pas confiance, il n'y aura pas de toute façon adoption. Et la confiance dans l'IA, elle se traduit par trois notions extrêmement précises. Ici, c'est la transparence, l'explicabilité et ce qu'on appelle le côté robuste. Alors, je vais expliquer en une phrase ce que ça veut dire.
Pardon, je me permets de vous couper, mais parce que la transparence, oui. Ça fait 50 ans, plus de 50 ans que l'intelligence artificielle existe. On a compris qu'elle franchissait un cap actuellement, mais je ne suis pas sûr que les gens, 50 ans après, comprennent de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils vont davantage comprendre dans les années qui viennent, dans les mois qui viennent?
Je le pense profondément, et vous savez, je vais être un peu provocateur. Est-ce que vous croyez que l'être humain est transparent? Je pense que la plus belle être humain sur Terre qui est le moins transparent possible, c'est l'être humain. On vient encore de voir récemment sur un contrat visiblement qui s'est mal passé. L'être humain est terriblement non transparent. Paradoxalement, et là je mets un pavé dans la mare, parce que je sais que c'est la tarte à la crème, on dit que l'IA n'est pas transparente. Je ne souscris pas à ce point-là. L'IA, d'une certaine manière, a une auditabilité de la prise de décision qui est extrêmement forte, puisqu'on peut retracer l'ensemble des événements et des éléments qui ont abouti à une décision, elle est peut-être paradoxalement, et je suis provocateur un petit peu, j'en suis conscient, mais c'est aussi pour ça qu'on fait un débat, elle est paradoxalement peut-être plus transparente que l'être humain en moyenne. Le deuxième point, c'est l'explicabilité. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on travaille sur l'explicabilité, qui est un sujet plus complexe, pour le coup, paradoxalement. C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable d'expliquer pourquoi nous sommes arrivés à telle ou telle décision? Et le troisième point, qui est la notion de modèle robuste, il faut que les modèles soient consistants et qu'ils reproduisent les mêmes résultats dans des conditions similaires. Autrement, ça veut dire que le modèle n'est pas robuste.
Eh bien,
donc,
merci.
La transparence, rapidement. L'explicabilité et la partie robuste.
On a retenu ces trois points et on a retenu l'idée principale qui répond à la question « Est-ce qu'il faut s'en inquiéter de ce développement de l'intelligence artificielle ?» L'IA sera ce qu'on en fera. C'est la phrase qui sera revenue dans ce débat à plusieurs reprises. Merci Jean-Philippe Deviol, vice-président de la division d'IBM dédiée à l'intelligence artificielle. Merci Serge Tisseron, psychiatre, docteur en psychologie, membre de l'Académie des technologies. Merci Stéphane Mala, mathématicien titulaire de la chaire de sciences de données. C'est la fin de ce débat du jour. Victor Hull à la réalisation, Florence Ponce à la préparation. 7 milliards de voisins.